Coupe du monde de soccer. Directement de la Russie, retrouvons Arcadio Marcuzzi.
On retourne du côté de la Russie, on se promène pas mal. Silverstone en Grande-Bretagne, là en Russie pour la Coupe du monde. Arcadio Marcuzzi est avec nous. Salut Arcadio.
Salut Marc.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Petite journée de repos aujourd'hui qui fait le plus grand bien.
Oui, on se remet des émotions qui ont été causées hier par deux matchs quart de finale qui ont été complètement fous, ben surtout celui entre la Russie et la Croatie. Et ça doit encore en parler beaucoup là, dans les sphères du soccer présentement autour de la Coupe du Monde.
Oui, tout à fait. Surtout, comme tu le mentionnes, cette défaite des Russes aux mains de la Croatie au tir au but, encore une fois, alors qu'on avait égalisé la marque dans les 5 dernières minutes du temps additionnel pour déclencher les pénalties. Malheureusement pour les Russes, leur aventure s'arrête là. Mais aujourd'hui, à Moscou, dans la fan zone FIFA, on a rendu hommage aux joueurs de la sélection russe. Les gens se sont amassés en grand nombre, comme s'ils avaient remporté le tournoi. Donc, vraiment, l'équipe nationale russe, aujourd'hui, ici, ce sont des réels héros.
Oui, parce qu'ils peuvent vraiment se retirer, les Russes, avec la tête très, très haute. Parce que, bon, on les voit disputer le premier match, un match d'ouverture, et on se dit, ben, OK, on ne joue pas contre une grande force du soccer. Ils ont gagné 5-0, je ne me trompe pas. Mais bon, on s'est dit, la Russie, l'aventure va se terminer quand même assez de bonne heure. Puis se rendre jusque-là, bravo.
Non, tout à fait, tout à fait. On ne les voyait pas se rendre loin, moi le premier. Il faut dire que la presse locale aussi, et les fans, j'ai eu l'occasion de jaser avec beaucoup de collègues et des partisans de Russes. Et ils ne donnaient pas cher de la peau de leur équipe nationale. On titrait même dans les journaux avant le début du tournoi que c'était un échec destiné, qu'ils étaient destinés à l'échec et des choses comme ça. Donc vraiment, ils ont induit tout le monde en erreur. Ils ont prouvé tout le monde qu'ils étaient capables de se frotter aux grandes puissances. Ils ont sorti notamment l'Espagne en 8e de finale au tir au but. Une Espagne, il faut dire, qui était d'une tristesse absolue, mais quand même, ça rend l'exploit des Russes tout encore plus notable.
L'Angleterre contre la Suède, ça s'est terminé 2-0. Bon, de ce que j'ai vu de ce match-là, ça avait l'air quand même assez dominant, là, le jeu des Anglais. Qu'est-ce que tu as apprécié là, de cette performance anglaise contre la Suède en quart de finale, Arcadio?
Ben, j'ai aimé, en fait, le fait que l'Angleterre a été patiente face à une équipe qui, vraiment, a donné beaucoup de fil à retordre à ses adversaires, qui est une équipe qui manquait quand même un peu de soccer, tu sais, tu peux être extrêmement défensif, tu peux baser ton jeu sur la solidarité, le jeu collectif, l'organisation défensive, ainsi de suite. Mais pour espérer gagner une Coupe du Monde, là, ça prend un minimum de football, de qualité offensive. Et l'Angleterre a été patiente. Ils sont allés chercher un but dès la demi-heure de jeu là, avec le défenseur Harry Maguire. Et ça, je pense que ça a ouvert un petit peu le jeu pour eux. Et l'Angleterre est opportuniste. Je pense qu'elle démontre de très belles choses dans le dernier tiers. Et c'est encore une fois, à l'instar de la France, c'est une équipe qui est jeune, un projet qui est en train encore de prendre. Donc, c'est de bien belles choses qui augurent pour l'Angleterre.
Et on ne souhaite pas de malheur aux Anglais, mais il serait quand même surprenant qu'ils puissent se rendre jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas eu énormément de succès, historiquement parlant, là, en Coupe du Monde.
Là. C'est vrai, une seule victoire en Coupe du Monde en 1966. Par la suite, ça s'est corsé, évidemment. Mais c'est une nouvelle génération, ce sont de jeunes joueurs et un jeune entraîneur qui ne semble pas traîner le poids de cette histoire avec eux. Et une demi-finale face à la Croatie, ben ils partent favoris, donc tout est possible pour eux. Une fois que tu es rendu dans le carré d'as, évidemment, tous les rêves deviennent accessibles, peu importe ton statut ou peu importe ton histoire. Donc je pense que non, l'Angleterre n'est pas favorite parmi les quatre équipes qui sont là, mais elle peut quand même tirer son épingle du jeu, là, surtout dans le contexte d'une Coupe du Monde où on a eu énormément de surprises jusqu'ici.
Je sais qu'à Arcadio, tu vas faire d'autres commentaires, d'autres interventions en ondes d'ici la fin de la Coupe du Monde, mais c'est notre dernière ensemble. Moi, je veux avoir ton appréciation de l'événement en tant que tel, de l'expérience vécue en Russie lors de cet événement planétaire. Comment t'as trouvé les infrastructures, l'accueil qu'on réserve aux journalistes, aux membres de la presse? Comment ça s'est passé en Russie là, avec tout ça cette année?
Honnêtement, ouais, ben écoute, jusqu'ici, tout a été exemplaire, honnêtement, autant au niveau justement des infrastructures, des conditions de travail pour moi et mes confrères journalistes. J'ai pu jaser avec eux et c'était le même son de cloche. Honnêtement, on a été très bien traités, très bien reçus. Non seulement bon par les gens du comité organisateur, par les milliers de bénévoles qui sont là au service des journalistes, mais aussi évidemment de tous les gens qui viennent assister à la Coupe du Monde. Donc vraiment un accueil fantastique et aussi des gens, des Russes un peu partout, très très accueillants, toujours prêts à aider. Se débrouillent très bien en anglais. Certains parlent plusieurs langues, donc ça rend les choses très faciles. Vraiment un contraste très marqué avec un peu qu'est-ce qu'on pouvait lire dans la presse, un peu par la presse occidentale avant la Coupe du Monde. On disait bon qu'on craignait beaucoup de violence, on craignait une Coupe du Monde pleine de problèmes. Et heureusement, du moins jusqu'ici, là, c'est tout le contraire.
Oui, parce que bon, le peuple russe, on a tendance à penser que bon, on a tendance à se souvenir de gens ou de peuples qui étaient pas très accueillants, peut-être un peu froids et tout ça, mais ça n'a pas été le cas du tout cette année avec cet événement-là.
Non, au contraire, et c'est un peu le contraste que je vois. Il y a beaucoup de gens qui venaient ici avec certaines appréhensions, justement, parce qu'on avait peut-être ce cliché-là avec nous, mais ça a été vraiment une surprise pour ceux qui s'attendaient justement à autre chose. Un peuple extrêmement accueillant, vraiment. Je jasais avec des fans de l'équipe anglaise, justement, qui avaient un peu peur au début en s'en venant parce qu'il y avait une animosité politique et historique avec la Russie. Il y avait des histoires d'hooliganisme aussi qui s'étaient passées durant la dernière Euro en France. Et il me disait, j'avais peur. On pensait venir ici, ne pas pouvoir porter nos maillots de l'Angleterre. Et finalement, ils sont venus ici. Ils ont passé tout le voyage avec leur maillot d'Angleterre sur le dos. Pas le moindre problème. Donc, de ce côté-là, voilà. Heureusement, une Coupe du Monde qui se passe très bien à tous les niveaux.
Tu n'es pas basé à Moscou. Tu vas aller faire ton tour, je pense, dans les prochaines heures. Mais cette fin de semaine, ça devait être assez festif parce que la Coupe Stanley et Alexander Ovechkin étaient de passage. Puis Dieu sait que depuis qu'il a gagné la Coupe Stanley, lui, il est très festif. Donc, il va être fier d'amener la Coupe Stanley chez lui, là.
Ben oui, on vit la légende incroyable. Il faudrait faire un film, en fait, depuis le jour où il a gagné la Coupe Stanley et peut-être tout l'été là avec toute la promenade qu'il a fait avec cette coupe. Et il était justement à Moscou avec Lord Stanley hier au FanFest justement de Moscou. Avant le match Suède-Angleterre, alors que bon, le FanFest était plein parce que la Russie jouait un peu plus tard. Et Ovechkin qui est allé d'ailleurs aux journalistes d'une prédiction, ou du moins d'un souhait presque prophétique. Il a dit qu'il espérait que la Russie, face à la Croatie, se rende en prolongation et aussi au tir au but, parce que le gardien de but russe, évidemment, Igor Akinfeev, est un des meilleurs gardiens au monde. Donc, il pensait que si la Russie se rendait aux instances finales, ils allaient avoir une belle chance de gagner. Il a eu raison sur un côté, mais malheureusement, pour le résultat, ça a été autrement pour la Russie.
On va te demander de te mouiller, Arcadio, pour les demi-finales. Il y a un match mardi, il y en a un autre mercredi. Celui de mardi oppose la France à la Belgique. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de la France depuis deux matchs et j'ai bien aimé aussi le match de la Belgique vendredi. Alors, ça risque de donner toute une rencontre.
Ouais, je suis d'accord, ça risque d'être un match enlevant. Deux équipes qui ont démontré, comme tu le dis, de très, très belles choses. La France qui est allée, je pense, en se bonifiant durant le tournoi, une phase de groupe peut-être qui a laissé quelques doutes, mais par la suite, dans les huitièmes, les quarts, ils ont su montrer de belles choses. Je pense que malgré que les deux côtés ont de très belles qualités, la France est selon moi supérieure et devrait avoir le dessus sur les Belges mardi à Saint-Pétersbourg.
Et surtout, on sent que depuis deux matchs, il y a une belle confiance de la part des porte-couleurs français.
Il y a une confiance, puis ce qui est bien, en fait, c'est que non seulement ils ont de très belles qualités offensives à l'instar de la Belgique, mais ils sont très bons du milieu vers l'arrière. Ils ont pu le prouver d'ailleurs face à l'Uruguay en les battant un peu à leur propre jeu avec une belle grinta, une belle solidité défensive. Et c'est un peu le doute qu'on avait par rapport à cette équipe et qu'ils ont su dissiper justement dans ce quart de finale. Donc je pense que entre les deux équipes, entre la France et la Belgique, la France est celle qui est le plus équilibrée des deux côtés du terrain. Je pense que ça va peser dans la balance, justement, dans ce match.
Et le lendemain, l'autre match demi-finale, Croatie-Angleterre. Je sais, hier, que tu m'as parlé de la Croatie et de leur parcours qui a été plutôt difficile. Ça n'a pas été convaincant plus qu'il faut.
Non, exactement. La Croatie, en fait, qui commence en Lyon avec une phase de groupe vraiment parfaite. Trois victoires. Ils ont dominé à chaque fois leurs adversaires de groupe, notamment en battant l'Argentine 3-0. Mais par la suite, ça s'est corsé dans les phases éliminatoires, avec notamment des performances qui se sont rendues au tir au but face au Danemark en huitième et face à la Russie en quart. Donc, des rivaux qui techniquement sont de qualité moindre que cette Croatie, qui a de beaucoup de talent, qui est très talentueuse. Donc, encore une fois, je crois que le manque à combler pour cette équipe, c'est la qualité du collectif. Et face à une Angleterre qui va très bien par les temps qui courent, qui est qui a une très belle qualité dans le dernier tiers, je crois que les Croates ne feront pas le poids. Et on risque de voir, à mon avis, une finale France-Angleterre le 15 juillet prochain à Moscou.
Les Français contre les Anglais, ce serait spécial.
Ouais, ben oui, ce serait, écoute, une finale historique, ouais. Épique, une finale jamais vue, en fait, en Coupe du Monde encore. Donc, vraiment, on peut se le souhaiter, malgré que, écoute, rendu là, peu importe les résultats d'un côté comme de l'autre, on va avoir une belle finale, j'en suis convaincu. Mais c'est vrai qu'une finale France-Angleterre revêt un cachet quand même assez particulier.
Arcadio, pendant que tu te trouvais en Russie, hier, l'Impact était au stade Saputo, devant quand même là, une foule qui profitait de la belle soirée parce qu'il a tellement fait beau ce week-end à Montréal et au Québec. Ils ont vu l'Impact accorder un premier but en 419 minutes de jeu, ce qui est assez incroyable. Mais l'Impact s'est accroché pour gagner 2-1 contre les Rapides du Colorado. Et moi, je constate depuis quelques matchs une équipe de l'Impact de Montréal complètement transformée.
Oui, mais en fait, oui, c'est une transformation, c'est sûr, parce qu'ils ont commencé d'une manière assez pathétique cette saison, il faut le dire. Mais là, avec ses 5 victoires, leurs 6 derniers matchs, 4 victoires consécutives, ils rentrent en série. Là, en ce moment, ils sont juste au-dessus du seuil des séries éliminatoires, chose qu'il y a quelques semaines à peine semblait impensable. Et tout ça avant les renforts du mercato estival. Donc, c'est très encourageant. Mais en même temps, je pense que je faisais partie quand même des optimistes du début de la saison, malgré ce début de saison désastreux. Je me disais que fallait laisser du temps au processus, faut laisser du temps à Rémi Garde pour travailler avec ses nouveaux joueurs, un groupe aussi qui a été reconstitué en grande partie au début de la saison. Donc, je pense que le fruit du travail commence, on commence à le voir, il commence à le récolter du côté de Rémi Garde et ses joueurs. L'exemple qui me vient à l'esprit, pour ne nommer que lui, c'est Alejandro Silva, un joueur qui était constitué par les fans de l'Impact, un peu à raison, parce que c'est vrai que ça ne marchait pas. Mais en même temps, moi, c'est un joueur que je connais bien, que je suivais dans le championnat argentin, et je me disais, il faut lui laisser du temps, parce que c'est un joueur d'une belle qualité. À son poste, à l'aile droite, il va être capable d'amener de très belles choses. Et il commence justement à faire son trou dans cette MLS, à trouver ses repères avec ses nouveaux coéquipiers. Et je pense qu'on ne fait que commencer, on ne commence qu'à voir cette qualité qu'il va amener à cette équipe tout au long de l'année. Le temps qui sera ici. Donc, il y a beaucoup de signes encourageants, Sylvain en étant, mais il y en a plusieurs autres. Le jeune Ken Kralicki qui continue de surprendre, qui donne raison à Rémi Garde de lui faire confiance. Samuel Piette qui est toujours solide. Tout ce qui manque, selon moi, à l'Impact de Montréal, malheureusement, c'est un attaquant de qualité, un vrai neuf de surface qui est capable de faire de la place pour ses coéquipiers, de mettre des buts. Malheureusement, Matteo Mancuso et Jackson ne semblait pas être capable de prendre le poste qui est libre là, parce que Matteo Mancuso, ça fait 4 départs consécutifs qu'il a. Hier, Jackson Hamel est entré. Il a réussi quand même à créer quelques chances. Donc, j'espère que Rémi Garde lui donnera une chance. Voilà, donc j'espère que ça va peser dans la balance pour que Rémi Garde lui donne quelques départs et en espérant que Jackson puisse justement saisir cette occasion qu'il n'a pas su saisir depuis le début de l'année, de prendre le poste d'attaquant partant, en attendant du moins qu'il y ait des renforts de ce côté-là.
Ouais. J'ai l'impression, Arcadio, parce que là, il y a une séquence vraiment éreintante qui s'en vient pour l'Impact. Il y a certains de ces joueurs-là là, que tu viens de nommer qui vont avoir une opportunité de briller ou du moins de démontrer à Rémi Garde qu'ils sont en mesure là d'être des figures marquantes avec l'équipe.
C'est certain, là, lorsque le calendrier se fait serrer, la rotation de l'effectif qui vraiment prend tout son sens et il y a des opportunités à saisir, comme tu le mentionnes, en espérant que ces joueurs-là sauront en profiter, parce que Rémi Garde donne beaucoup disons d'importance aussi à la qualité du travail qui est fait lors des entraînements. Donc de ce côté-là, je pense que encore une fois, il y a des joueurs qui se doivent de donner un petit extra là, non seulement pour pour impressionner le coach, mais pour, disons, que ça paraisse lorsque les matchs ont lieu, là, parce que faut pas se leurrer, le travail qui est fait durant la semaine, ça finit toujours par payer là, le samedi ou dimanche quand on joue. Donc, de ce côté-là, il y a certains joueurs qui devront le prendre en considération, ça c'est certain.
Ben Arcadio, je te remercie de ta présence cette fin de semaine avec nous. Excellent travail encore une fois. On continue de te suivre et de t'écouter. On te souhaite une bonne fin de Coupe du Monde. Profites-en pleinement et au plaisir de se reparler un de ces quatre.
Merci beaucoup, Marc.
Salut, Arcadio. Bye-bye. Arcadio Marcuzzi depuis la Russie pour nous parler de la Coupe du Monde et des demi-finales qui s'en viennent mardi et mercredi. Direction pause publicitaire. On vous revient dans quelques minutes aux amateurs de sport. Dimanche ensoleillé, très beau sur le Québec, profitez-en vous autres aussi. On est avec vous jusqu'à 17h au 98.5 FM et sur une station du groupe Cogeco Média.